Actuellement en pleine gestion de crise, comme tous ses homologues diplomates à travers le monde, Christophe Penaud, l'ambassadeur de France à Canberra, a accepté de nous accorder quelques minutes de son temps pour répondre à nos questions. La première, elle concerne le dispositif de rapatriement qui s'est traduit cette semaine par la mise en place de vols à prix réduit assurés par la compagnie Qatar Airways. Un dispositif bienvenu pour tous ceux qui n'avaient plus aucune ressource financière, mais qui n'est pas voué à durer très longtemps.
Il y a eu deux vols cette semaine. Vous avez assisté à celui de Sydney. Il y en a un qui est parti depuis Perth mardi et le troisième partira de Melbourne samedi. Donc c'est un total de trois vols à tarif négocié qui ont été mis en place conformément aux annonces du ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian. Et pour l'instant, on n'en prévoit pas d'autres.
Alors pour tous ceux qui trouveraient que le dispositif mis en place est un peu léger, l'ambassadeur rappelle que ce type de vol à prix réduit et qu'on n'est même pas obligé de payer tout de suite, c'est déjà exceptionnel.
Trois, c'est déjà beaucoup. C'est un effort très important, mais qui était nécessaire vis-à-vis des Français en situation difficile en Australie. Et je rappelle surtout que depuis une semaine, le paysage des vols commerciaux s'est complètement stabilisé, donc il y a beaucoup de vols commerciaux qui permettent aux Français qui souhaitent rentrer en métropole de prendre l'avion à des tarifs qui sont pratiquement les mêmes que ceux des vols chartérisés. Donc il y a beaucoup de solutions qui existent si on veut rentrer en France, ce qu'on conseille évidemment vivement à tous de faire dans les prochaines semaines.
Car l'objectif de ces vols spéciaux, c'est avant tout de pouvoir ramener les 500 Français parmi les 7000 qui se sont fait connaître auprès de l'ambassade ces derniers jours, qui sont considérés comme prioritaires. Les cas prioritaires, ce sont les malades, celles et ceux qui travaillent dans le domaine médical, les mineurs et enfin les personnes en très grande précarité financière et ou sur le point de se retrouver en situation irrégulière. Alors ces 500 Français prioritaires ont-ils tous pu rentrer au bercail ?
Écoutez, pour nous, les trois vols dont on vient de parler permettent de traiter l'essentiel de cette population. Par ailleurs, on a connaissance dans les contacts individuels qu'on a avec ces gens en difficulté ou en précarité, de beaucoup qui ont pris un billet d'avion et qui partent dans les jours qui viennent, mais pas nécessairement dans les vols chartérisés. Même si la majorité des gens que nous allons transporter dans ces vols sont des cas prioritaires, il y en a d'autres qui voyagent et dont on sait qu'ils vont voyager dans les prochains jours sur les vols commerciaux. Donc je pense qu'on peut dire que d'ici une semaine, on aura traité ces cas prioritaires.
Malheureusement, la crise qui secoue le monde actuellement est d'une telle ampleur que la liste de ces cas prioritaires risque de s'allonger au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Il y a aussi des gens qui vont devenir dans les prochains jours des cas prioritaires ou dans les prochaines semaines parce qu'ils perdront leur emploi, parce qu'ils se retrouveront en situation sans ressources. Et ces gens-là, s'ils ne se sont pas enregistrés jusqu'à maintenant sur notre plateforme de recensement, on n'a pas forcément connaissance de leurs difficultés. Donc le problème ne sera pas entièrement traité, mais celui des 500, oui.
Pour le personnel de l'ambassade comme pour celui du consulat, la situation actuelle est totalement inédite. La cellule téléphonique spéciale mise en place à l'ambassade reçoit plus de 1000 appels par jour et les services du consulat sont également submergés de travail. Dans la communauté, beaucoup se plaignent de ne pas avoir réussi à les joindre ou regrettent qu'ils n'aient pas été en mesure de leur venir en aide. Pourtant, l'ambassadeur l'assure. Absolument tout le monde est mobilisé et les nuits depuis maintenant 3 semaines sont pour beaucoup très courtes.
La gestion de la crise, elle est assurée de manière totalement conjointe et même fusionnée par l'ambassade et le consulat. C'est-à-dire toutes les équipes de l'ambassade gèrent la crise avec les agents du consulat. On a jeté toutes nos forces dans la bataille et on s'est tous mis au service des Français. Bon, par exemple, la cellule de réponse téléphonique aux Français, elle est à l'ambassade. La cellule qui gère les vols spéciaux sur la base des données que le consulat nous transmet, elle est à l'ambassade. Donc c'est une équipe fusionnée. Je voudrais bien qu'on comprenne ça parce que comme ça on est plus nombreux et on peut apporter un meilleur service aux Français.
Mais la France n'est pas seule pour gérer la situation. Tous les diplomates représentant les pays de l'Union européenne et l'UE elle-même en Australie travaillent main dans la main.
On a une coordination ici à Canberra entre toutes les ambassades de l'Union. Ça comprend la délégation de l'Union, mais également l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade des Pays-Bas, l'ambassade d'Italie et toutes les autres. Et c'est très important parce qu'on fait une coordination pour demander aux Australiens de coopérer avec nous. Jusqu'à maintenant, ça a très bien fonctionné. Les autorités australiennes se sont montrées extrêmement coopératives en matière de visa, en matière de transit aussi, pour faciliter les choses, pour faciliter aussi les mouvements entre les États. Et c'est très important qu'on puisse parler d'une seule voix au nom de l'Union européenne et des États membres, parce qu'évidemment, ça nous donne plus de poids dans ces négociations. Donc la coordination ici, elle est très importante et elle se fait aussi sur le terrain, et notamment à Sydney, entre les consulats généraux.
Les autorités australiennes se sont donc jusqu'à présent montrées plutôt coopératives, mais jusqu'à un certain point. Inutile de penser par exemple que l'Australie accordera des prolongations de visa. La consigne reste la même pour ceux dont le titre de séjour arriverait bientôt à expiration, faites une nouvelle demande de visa. L'ambassadeur, lui, tentera de faire infléchir les autorités australiennes sur leurs conditions d'obtention.
Bon, c'est un sujet qu'on suit de très près et également en coordination européenne, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. En même temps, les Australiens font preuve de flexibilité jusqu'à un certain point, si vous voulez. Donc nous, on va explorer cette flexibilité au maximum. Mais en même temps, j'ai envie de dire que le message, c'est que les gens doivent rentrer en France. Ce n'est pas qu'ils restent en Australie. Par contre, ceux qui se trouvent en difficulté parce que leur visa arrive à expiration et qu'ils n'ont pas pu gagner l'aéroport ou qu'ils doivent rester encore quelques jours pour vendre leur voiture, donc ceux-là, on peut les aider. Mais moi, je voudrais que le message qui passe à travers notre entretien, ce soit celui du retour en France et pas celui d'explorer les flexibilités australiennes en matière de prolongation de visa, qu'on s'efforcera d'obtenir de toute façon pour les cas vraiment difficiles et prioritaires. Je ne veux pas encourager les gens à recourir à cette prolongation.
Le message a donc changé depuis la semaine dernière où Jean-Yves Le Drian conseillait encore aux Français ayant les ressources nécessaires de rester en Australie, où l'épidémie de coronavirus est pour l'instant moins sévère qu'en Europe. Ce n'est désormais plus le cas, pour la simple et bonne raison que personne ne peut prédire pendant combien de temps encore des avions continueront à voler dans le ciel australien.
Oui, si on encourage les Français à partir, c'est pour une raison bien simple, c'est que on ne sait pas, on n'a pas de visibilité sur ce que sera l'état du trafic aérien, des liaisons aériennes au-delà de 2 semaines. Hein. Il y aura peut-être encore des liaisons, mais on n'en est pas absolument certain. Donc il faut que les gens profitent aujourd'hui du fait qu'il y a une grosse offre, qu'il y a des avions, des billets d'avion bon marché qui permettent de rentrer en France à des prix raisonnables. Et qui n'attendent pas, parce que dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, ça sera beaucoup plus difficile de rentrer.
Bon, et puis parce qu'on n'oublie pas que derrière les titres et les honneurs, il y a aussi des hommes, on a fini par demander à l'ambassadeur comment ça allait. Parce qu'après tout, dans un pays comme l'Australie, qui n'a pas connu la moindre crise majeure depuis la Seconde Guerre mondiale, même quand on est diplomate, il est difficile d'imaginer vivre un tel bouleversement.
Écoutez, on fait un métier qui nous expose aux crises. On est à l'abri nulle part, et d'ailleurs personne ne souhaite être à l'abri. Bon, donc je dirais qu'on gère, ça fait partie de notre profession, on gère la situation comme elle vient, et surtout on essaye d'être efficace. La difficulté peut-être qu'on rencontre ici et qui est un peu particulière en Australie, c'est qu'on vient de vivre déjà au mois de janvier une crise très difficile avec les bushfires. Et les pics de pollution très élevés qui ont beaucoup mobilisé, beaucoup affecté les agents. Mais ça va bien, on tient bon. Et l'Australie n'est pas encore aussi touchée que l'Europe. Il n'y a que 5 000 cas aujourd'hui en Australie. Il y a eu 21 décès. On n'est pas dans une situation encore qui est celle de l'Europe. Je crois que c'est beaucoup plus difficile pour nos compatriotes en France.
Le coronavirus a effectivement fait beaucoup moins de victimes en Australie avec, selon les derniers chiffres, 25 morts, tandis qu'en France, le Covid-19 a déjà tué plus de 5 300 personnes, un chiffre qui n'inclut pas les décès en dehors des hôpitaux.